genèveactive.ch.
Ce cinéaste sud-coréen, Kim Ki-duk, propose avec Arirang l'une des œuvres les plus étonnantes qu'il soit, une sorte de journal intime en forme de mise à nu qui mêle autofiction, autoreprésentation et autofiguration.
Kim Ki-duk est un vrai individu, un vrai artiste, selon moi, qui a assez rapidement connu la notoriété mondiale, qui a été porté au nu, qui a enchaîné beaucoup de films en très peu de temps, qui a été célébré par le plus grand festival du monde et qui a connu un petit peu une traversée du désert ces 4 dernières années, en fait, où il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'il a totalement cessé la réalisation de films. Arirang raconte un petit peu tout son état d'esprit personnel. C'est vraiment sa propre thérapie, si vous voulez, filmée sur grand écran. C'est absolument passionnant.
C'est un réalisateur que vous connaissez bien. Jusqu'à Dream en 2008, je crois qu'il avait réalisé 15 films en 12 ans. Il semblait presque aussi prolixe que certains comme le japonais Takeshi Miyake. Et puis en fait, c'est l'autarcie, la pré-retraite, qui dure plus de 3 ans. On devine alors dans cette figure de performeur qui s'auto-interview quelque chose de l'esprit de I'm Still Here de Casey Affleck, qui était là un vrai faux documentaire sur la déchéance mise en scène de la star US Joaquin Phoenix. Mais on se convainc aussi que cette auto-psychanalyse mise en abîme va vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'à l'évocation de son suicide par l'artiste qui nous laisse sonner et groggy. Il y a un premier épisode, c'est vraiment ce récit du tournage de Dream qui est visiblement traumatique pour lui.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il se passe un accident au cours de ce tournage. Il y a l'actrice principale qui se pend en fin du film. Et en fait, le mécanisme, si vous voulez, de la pendaison a une défaillance technique. Et donc, l'actrice manque vraiment de s'étouffer, de s'étrangler par la corde. Et c'est vraiment la réaction de Kim Ki-duk qui a le réflexe de la sauver. Et donc, du coup, Kim Ki-duk se remet grandement en question lui-même, à savoir de quel droit il dispose sur la vie de ses comédiens. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs autres accidents au cours d'autres tournages. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant, qui a toujours poussé ses acteurs dans leur dernier rattrachement, aussi physiquement que moralement, que, voilà, pour soutirer vraiment des vraies performances d'acteurs. Vraiment une remise en cause personnelle. Lorsqu'on regarde déjà la vie aussi de l'acteur, on voit que c'est quelqu'un d'assez instable, qui a souvent flirté l'idée du suicide, que c'est quelqu'un qui a changé beaucoup de fois de métier au cours de sa vie. C'est quelqu'un qui a tout plaqué en Corée pour partir en France, par exemple, à essayer de vivre de la vente de ses propres peintures. Justement, le cinéma a été le salut. Et je pense que là, encore une fois, Arirang est son salut.
Comment perdre la foi dans les images, dans le cinéma, et le dire tout en ne cessant d'en parler et de le faire? C'est le pari sincère mais aussi manipulateur du cinéaste, sans doute. On voit une image qui est vraiment une mise en abîme avec des réalités successives. C'est Kim Ki-duk qui s'auto-interview lui-même et qui se regarde en riant de lui-même. Donc il y a toute une espèce de structure en poupée russe et cette espèce de maison dans laquelle on est obligé aussi de peler les espaces comme des oignons, puisque effectivement il entre dans un igloo également. Donc il y a toute une forme, disons, de cloisonnement ou d'espaces successifs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette mise en abîme? Parce que c'est loin d'être uniquement célinien, logoréique. Célinien, je le dis parce qu'il y a des vaticinations et des haines qui sont éructées à l'écran. Mais il y a en même temps un procédé qui est extrêmement intéressant au niveau de la mise en abîme et de l'autofiction.
Oui, tout à fait. Enfin, on pourrait prendre Arirang vraiment au premier degré, à savoir quelqu'un qui fait une terrible dépression, qui s'est totalement isolé, qui retourne un petit peu à l'état sauvage pour tenter de se retrouver lui-même. Après, encore une fois, connaissant un petit peu l'individu et on regarde sa filmographie, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral, réfléchi, posé, qui a déjà dans d'autres de ses films fait une espèce de psychothérapie en ressassant certains souvenirs au passage de sa propre vie. Il faut vraiment le prendre au sens métaphorique. Il faut éplucher plusieurs couches pour rentrer au plus fort de lui. Il nous fait pénétrer au sein de sa tête. Il nous emmène vraiment au cerveau, le cerveau qui serait représenté par l'ordinateur, en fait, hein, l'outil de création. Ensuite, il y a aussi la salle au trophée où il nous emmène, donc qui se trouve en bas. Et puis après, c'est également un très grand showman, donc il faut vraiment aussi faire la part du vrai et du faux, ce qu'il a inventé pour le besoin de ses films et ce qui est la vérité, si vous voulez.
On va passer à La rivière Tumen, qui est un film qui est sorti en 2008. C'est, je crois, le troisième film du coréen Jang-Lu, et qui nous emmène donc sur les plaines enneigées d'un petit village perdu entre la Chine et la Corée, à la lisière du fleuve Tumen. C'est la frontière naturelle entre ces deux pays. Le cinéaste va aussi puiser dans les terres de son enfance pour traiter de la question dont justement des réfugiés nord-coréens en Chine et signer ainsi un drame à la fois onirique et réaliste. Alors qu'en est-il de ce film qui a la particularité d'être une coproduction? On va parler aussi des coproductions entre Corée du Sud et Chine, dans laquelle la Chine apparaît paradoxalement comme une forme de paradis.
C'est un vrai artiste avec une vraie vision, un vrai langage cinématographique qui raconte une histoire terrible. Hein. Après, on est vraiment à l'inverse d'un Park Chan-wook qui est du pur cinéma commercial. Zhong-Lu est quand même un vrai auteur. Hein. C'est un film d'auteur avec un vrai message, une vraie histoire inspirée des faits divers réels. C'est très très intéressant. C'est une coproduction, mais comme l'avait déjà été ses précédents. Cette fois-ci avec la Chine, mais il avait déjà signé un autre film qui s'appelle Shangqing, qui était coproduit avec la Chine, qui dressait un portrait pas très flatteur de la Chine actuelle. Après, il faut savoir que la Chine devient aujourd'hui l'un des principaux financiers des productions asiatiques en général. Donc, ils placent un petit peu d'argent partout. Curieusement, alors qu'ils exercent une forte motion de censure sur leur propre cinéma et qu'ils veillent vraiment au grain, eh ben, ils ne suivent pas forcément les productions ou coproductions qu'ils financent à l'étranger. Donc, je trouve qu'il y a une vraie liberté de ton quand même, qu'il y a des choses qui accusent même la Chine dans ce film.
L'atmosphère du film est vraiment parfois assez proche du village de Chamalian, c'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement le visage du mal ou de la menace qu'il y a dans ce village. Donc il y a un aspect véritablement fantastique.
Après, je trouve que ça, c'est aussi la patte indéniable du réalisateur qui a un vrai don pour créer des ambiances et créer du suspense avec pas grand-chose. Hein. Il s'appuie beaucoup sur la nature, sur le lieu déjà très étrange. C'est véritable no man's land entre deux pays, c'est une vraie frontière. Il joue également beaucoup avec la rivière, barrage infranchissable lorsque c'est pas gelé et véritable lieu de passage pour ceux qui fuient en hiver quand le lac est totalement gelé. Donc oui, il y a beaucoup de brouillard, évidemment, parce que ça se passe par temps hivernal, donc ça renforce un côté un peu fantastique, oui.
P-047, donc le dernier film, semble-t-il, du réalisateur thaïlandais Kondey Yathuransmi. C'est une histoire donc de voleur de vie qui plonge le spectateur dans une sorte d'étrange léthargie. Ça rappelle par certains côtés thématiques le fameux 6 degrés de séparation qui a offert à Will Smith le rôle de sa vie.
Oui, alors Kondey, c'est vraiment un cas à part dans la cinématographie thaïlandaise actuelle. C'est l'auteur de 4 longs métrages tourné sur une très longue période d'une quinzaine d'années parce qu'il a toujours beaucoup de mal à se faire financer ses films. Encore une fois, c'est surtout le cas en Thaïlande. Le cinéma thaïlandais est un cinéma foncièrement commercial, extrêmement populaire où tout ce qui est artistique est quasiment banni à l'exception de quelqu'un comme Apichat Chatpong vers Satakul, mais qui là encore n'est pas du tout connu dans son pays, mais sur la scène internationale, ou quelqu'un comme Penek Ratanaroyong qui lorgne un tout petit peu vers le commercial mais qui reste quand même foncièrement artistique. À la Kondey, il a vraiment fait vraiment le grand écart. Et on retrouve certains acteurs assez connus, assez populaires, mais dans une histoire que vous le disiez, en forme de puzzle. Je ne sais pas si on aura toutes les clés à la fin du film. Je pense qu'il soulève beaucoup plus de questions qu'il ne donne des réponses. Rien que pour le fait d'être aussi marginalisé, d'être aussi à part dans le cinéma thaïlandais, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant à découvrir. On a eu un vrai coup de cœur, comme ça a été le cas dans d'autres festivals aussi, parce que c'est vraiment un ovni, un objet filmique non identifié. Et si on peut dresser un autre lien par rapport à cette émission, ce qu'on a pu dire, il m'a fait également beaucoup penser au Locataire de Kim Ki-duk, où il raconte l'histoire de personnes qui s'introduisent dans les appartements d'autres personnes pour s'emparer de leur vie. Le cinéma thaïlandais est un cinéma foncièrement commercial, qui a d'ailleurs beaucoup de mal à s'imposer par rapport à son grand concurrent, les États-Unis. Principal public va être un public d'adolescents. C'est pour ça que parmi les trentaines, quarantaines de films à être tournés par an actuellement, on va trouver beaucoup de bluettes adolescentes avec des comédies romantiques à l'eau de rose. On va voir des transpositions d'émissions cultes, comiques de la télévision sur le grand écran. Puis également le pan plus action, comme des films comme Bodyguard ou Ang Bak avec Tony Jaa, etc. Il y a une certaine résonance sur le marché local, mais surtout international. Et donc vous avez quelques rares, et je le souligne vraiment très fort, rares cas comme celui d'Apichat Chatpong vers Satakul, qui donc a eu la Palme d'Or avec Un Uncle Bunmi. Quelqu'un comme Aditya Asarat, qui avait fait Wonderful Town, qu'on avait présenté au Black Movie il y a quelques années, mais qui sont vraiment des exemples très marginaux. et qui sont, dans la plupart des cas, quasi entièrement financés par des investisseurs étrangers, qui ont fait la rencontre avec ces gens, souvent par le biais d'un court-métrage, qui ont senti quelque chose, qui voient une vision artistique, qui voient l'intérêt à investir pour quand même soutenir un cinéma plus d'auteur, si vous voulez, qu'on peut également après exporter dans le festival du monde entier. Mais ça reste extrêmement marginal, et c'est avant tout aussi une question d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de cinéma, ou très peu en Thaïlande. Il n'y a pas de salle dédiée au cinéma d'art essai, donc l'accès est extrêmement difficile. Les films d'Apichatpong vont être diffusés que dans les ambassades ou les maisons culturelles, donc l'accès est extrêmement limité. Les gens n'ont pas le regard. Donc, c'est difficile de se mettre devant un film d'Apichatpong lorsqu'on n'a été nourri que de Terminator ou Avatar. Hein. C'est beaucoup demandé, même si ça peut être une vraie découverte. Je le souhaite à tout le monde, mais ça reste un cinéma extrêmement marginal, très peu répandu et, encore une fois, beaucoup plus connu sur une scène internationale que sur le marché local. Alors, ce que très peu de gens savent, c'est qu'avant la carrière de réalisateur, encore une fois là, mondialement reconnu avec des films comme 12e étage ou Be With Me, eh bien, Eriko, il était dessinateur de bandes dessinées. C'était vraiment dans l'animation. En revanche, il n'existe aucun cinéma d'animation à Singapour. Depuis des années, des années, des années, et c'était porté dans l'idée de faire le premier film d'animation singapourien, surtout pour adultes, en s'appuyant sur justement donc les œuvres de l'un de ses mentors, si vous voulez, du dessin, Tatsumi Yoshihiro. Après, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que finalement, c'est une vraie rencontre, puisque Tatsumi a été surtout connu pour avoir été l'inventeur du manga, si vous voulez, le bande dessinée japonaise Geekka, c'est-à-dire dessin dramatique des mangas pour adultes. Avant, on avait surtout tout ce qui était robots, tout ce qui était destiné à un marché plus enfantin. Et donc, Tatsumi, dans les années 50, va inventer des histoires assez sombres, souvent tirées de ses propres souvenirs et expériences, mais pour adultes. Et le lien est très rapidement fait par rapport au film de fiction que Eriko a pu tourner auparavant et qui raconte toujours des véritables drames dans la vie des adultes. Oui, c'est-à-dire qu'Eriko, en fait, s'est inspiré de quatre histoires et demie de Tatsumi, donc des choses qu'il avait dessinées, des bandes dessinées, et d'une très grande biographie qui n'existait malheureusement qu'en japonais, qui retrace donc toute la vie réelle de Tatsumi, et puis met justement déjà en parallèle ce qu'il a pu dessiner avec les épisodes qui sont survenus dans sa vraie vie. Et donc ça donne effectivement une œuvre un peu étrange, qui mêle donc la réalité à la fiction, donc la partie biographique avec des histoires adaptées, et puis les changements sont faits de manière extrêmement subtile. On ne sait plus si c'est encore lorsqu'il y a vraiment le changement qui se passe d'une histoire à l'autre. C'est un film d'animation déjà très très étrange par rapport au dessin, ce par deux aspects, déjà financier, parce que encore une fois, faire ce type, vraiment l'un des premiers dessins animés singapouriens, donc ça coûtait beaucoup d'argent, dessiné à la main. Donc Rikku a choisi de faire une économie de moyens, donc ce n'est pas animé avec 24 images par seconde, il y en a un petit peu moins. En même temps, si on est très attentif, on voit une progression. En fait, il va adapter le rythme de son récit et le dessin à l'évolution du dessin de Tatsumi, qui évidemment, à force de dessiner, va faire une vraie évolution dans son œuvre, qu'on va retrouver, donc transposer sur le grand écran.
Et puis alors, une chose sur le cinéma singapourien actuel de fiction. Bon, il y a aussi toute une tradition documentaire, mais il y a des noms comme Kelvin Tong, Jin, Royston Tan. Quel regard portez-vous sur cette génération de cinéastes?
Alors, on avait fait une large rétrospective accordée aux singapouriens il y a quelques années au festival Black Movie, où on avait justement reçu des gens comme Jin et Royston Tan. Ça avait été une rencontre absolument passionnante. Et il faut savoir que le cinéma s'y était vraiment arrêté entre 1978 et 1993, il n'y avait plus aucun film à avoir été produit là-bas parce qu'on condamnait le cinéma comme un objet de loisir, de perte de temps, puisqu'on était en pleine révolution économique et il fallait vraiment mettre tous les efforts pour faire progresser le pays. Et en 1993, il y a eu un premier film. La cinématographie a repris peu ou prou, mais restait vraiment 1, 2, 3 films par an pour arriver aujourd'hui, à l'heure actuelle, à une dizaine de productions par an. ce qui est encore rien par rapport à d'autres pays comme la Corée qui a plus de 150 films, maintenant le Japon qui a 600 films. Donc ça reste encore extrêmement marginal, mais c'est un tout, tout petit pays, donc le retour sur investissement n'est absolument pas assuré. Et donc je regarde encore une fois là, avec beaucoup de tendresse, chaque film qui sort, parce que c'est un véritable effort, souvent surhumain, fait par des jeunes réalisateurs pour essayer de produire un objet cinématographique dans des conditions extrêmement difficiles.
Takashi Miyake, avec Harakiri Mordin Samouraï, 13 assassins que vous présentiez l'année dernière dans le cadre Black Movie, s'ouvrait sur une scène de seppuku d'un classicisme et proche de la veine contemplative, voire poétique de Miyake. On pense à Bird People in China ou Visitor Q, par exemple. Ici, on est assez proche aussi de cette veine contemplative. Rien de parodique, par contre, semble-t-il, enfin en tout cas au premier abord. Qu'en est-il justement de ce film qui décrit de manière assez critique la rigidité du système de classe féodale? C'est un remake d'ailleurs.
Oui, tout à fait, il faut vraiment le souligner. C'est-à-dire que Miyake a été surtout connu pour ses productions un petit peu folles, comme Dead or Alive 3 que nous passons dans le cadre de ces festivals, Audition et tant d'autres. C'est quelqu'un qui vient donc du marché de la vidéo, puisqu'il existait un marché de la vidéo où des films, des longs métrages étaient directement fait pour le marché de la vidéo et qui était souvent un cinéma de violence, et où Miyake pouvait se permettre de tourner 7, 8, 9 films par an, vraiment sans souffler, dans des temps absolument records. Ces marchés n'existent plus depuis 2004, et Miyake est l'un des très 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 rares cinéastes à avoir réussi à franchir le pas, avec quelqu'un comme Kurosawa Kiyoshi, qui est également issu de ce cinéma vidéo, et donc qui hérite aujourd'hui des très grosses productions commerciales, ce qui peut être un paradoxe, et notamment des remakes à foison qui sont faits en ce moment au Japon. Je ne sais pas s'ils sont comme les Américains à court d'idées, mais voilà, c'est la tendance. Donc là, il signe Harakiri, qui est une œuvre magistrale des années 60 de Kobayashi Miyazaki, qui avait révolutionné justement l'époque en étant l'un des premiers films de sabre, quelque chose d'extrêmement populaire et fait pour le grand public, mais avec un vrai message sous-entendu qui peut encore aujourd'hui d'être d'actualité, puisqu'il dénonce un petit peu, si vous voulez, le rapport entre l'abus de pouvoir de l'aristocratie sur le petit peuple. Et c'est ça ce que dénonce le film, mais de manière, encore une fois, extrêmement formelle. Les images sont très 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 belles et avec une vraie histoire passionnante que je vous invite à découvrir.
Il y a l'acteur principal qui est Ebizo Ishikawa, donc qui est une icône du théâtre kabuki au Japon, qui est d'une intense physicalité ici, qui joue le rôle justement de Hanshiro, qui est un candidat à la mort volontaire truquée. Qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à cette présence physique, et aussi qu'il y a une forme, disons, de surcadrage presque dans ce film, avec les personnages qui sont un petit peu déployés, disposés dans des espaces emboîtés, qui tracent des frontières impénétrables. C'est vraiment un film qui est tourné au cordeau. On n'avait plus l'habitude de ce type d'architecture depuis un certain nombre de films de Kurosawa, il y a de ça bien des années.
En fait, il faut savoir qu'Harakiri, à la base, a été tourné en 3D, pensé pour un marché 3D. Bon, Miyake, c'était une première pour Miyake et presque pour le cinéma japonais, parce qu'il n'y a eu que deux films en 3D tournés auparavant. Contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, c'est que Miyake n'était absolument pas intéressé à faire des très gros effets avec le sang qui aurait giclé sur les spectateurs des premières rangées par le biais de la 3D. Non, c'est quelqu'un qui a un peu, à l'image d'Avatar, plutôt pensé arrière-plan, premier plan, etc., à jouer avec ces différentes couches à l'image, si vous voulez. C'est une tradition, le film de sabre, avec des styles de figure, des cadrages imposés. Donc finalement, Miyake n'invente pas grand-chose, mais se réfère à un cinéma typique des années 50 et surtout 60, récréer ses images, mais avec les techniques modernes de ce temps. Genève Active.ch